Tendance Ouest.
Tendance Ouest.
Écoutez les chroniques spirituelles de frère Paul Adrien.
Bienvenue dans cette chronique spirituelle. Je suis le frère Paul Adrien d'Ardemar. Je suis prêtre religieux catholique. Et ensemble, avant de commenter l'évangile du jour, je vous propose de réviser notre classique. Nous étions il n'y a pas si longtemps sur la mort et la résurrection de Jésus. Oui, mais il n'y a pas que Jésus dans le monde. Je vous propose, en guise d'introduction, de revoir trois grands personnages religieux et de voir si jamais vous savez bien comment eux, ils sont morts. Commençons avec Moïse, personnage fondateur du judaïsme. Savez-vous comment il est mort ? Ah, il y a des petites choses à dire. Moïse, donc. Moïse meurt à l'entrée de la terre promise, sur le mont Nebo. Ce qui est une mort un peu dure, parce que lui qui a passé 40 ans dans le désert à guider son peuple pour qu'il sorte précisément du désert pour entrer dans la terre promise, voilà qu'au moment d'en sortir, il monte sur une montagne, le mont Nebo, de laquelle on voit tout Israël, et là, il meurt. Deutéronome chapitre 34, Dieu lui permet de contempler la terre de Canaan, mais ne lui permet pas d'y entrer à cause d'un acte de désobéissance qu'il avait eu 40 ans auparavant. Quand il avait frappé le rocher de Meriba, dans un acte de désobéissance, et le voilà sur le mont Nebo, qui meurt juste à l'entrée de la terre promise, à l'âge de 120 ans, la Bible dit « l'œil vif et la vigueur intacte ». Petit lot de consolation, s'il n'entre pas dans la terre promise, c'est Dieu lui-même qui l'enterre. Personne ne connaît sa tombe. Une mort mystérieuse qui renforce le caractère sacré et prophétique de Moïse. Après Moïse, passons à la mort de Bouddha. Bouddha, aussi appelé Siddhartha Gautama, qui meurt âgé, à l'âge de 80 ans à Kushinagara, dans l'Inde. Avant de s'éteindre, il prononce ses derniers mots. « Toutes les choses composées sont périssables. Travaillez avec diligence à votre libération. » Et il meurt, dans une posture paisible, allongé sur le côté droit, entouré de ses disciples. Un événement qui est appelé le Paranirvana, c'est-à-dire l'entrée définitive dans le nirvana au-delà du cycle des renaissances. La tradition dit qu'un repas offert par un forgeron l'aurait rendu malade, mais qu'il avait accepté la mort avec sérénité. La mort n'est pas une fin tragique, mais une libération pour Bouddha. Elle devient un moment de transmission, et c'est là qu'il désigne l'enseignement comme seul guide après lui. On prendra des reliques de son corps qui seront partagées et vénérées à travers l'Asie entière. Ça vous donnera les fameuses stupas. Nous passons à la mort de Mohammed, ce qui nous amène du côté de l'islam. Nous sommes en 632 à Médine, une ville juste au nord de la Mecque. Le prophète Mohammed meurt dans la chambre de sa jeune épouse Aïcha. Il a environ 63 ans. Malade pendant plusieurs jours, la tradition rapporte qu'il aurait continué de guider ses fidèles et de prier avec eux malgré sa faiblesse. Ses derniers mots auraient été une prière, je cite, « Ô Allah avec le compagnon suprême ». Sa mort fut ressentie comme un choc pour la communauté musulmane qui perd avec lui son guide, même si le Coran affirmait que les prophètes eux aussi étaient mortels. Abou Bakr, son compagnon et ami, apaise la foule en déclarant « Celui qui adorait Mohammed, qu'il sache que Mohammed est mort. Mais celui qui adorait Dieu, Dieu est vivant et ne meurt jamais. » On enterrera le corps de Mohammed sur place, et sa tombe est encore conservée, elle se trouve aujourd'hui dans la mosquée du prophète. C'est sa mort qui va aussi marquer le début des califats et le début des débats sur la succession du prophète. Nous passons maintenant à l'évangile du jour et à son commentaire. Dans l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean, au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera et il le glorifiera bientôt. » Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau. c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Tout est dit, et pourtant, tout est toujours à reprendre. Que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit même dans un cercle associatif, toujours bien veiller à s'aimer les uns les autres, que les gens soient aimables, qu'ils ne soient pas aimables, qu'ils vous apprécient, qu'ils ne vous apprécient pas. Voilà quelques petits critères que moi, je me donne à moi-même quand je veux faire le point autour de moi, pour savoir si jamais ce commandement que Jésus m'a donné, ça veut dire quelque chose pour moi. Par exemple, le respect. Respecter la dignité de chaque personne, même quand on n'est pas d'accord. Alors évidemment, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut respecter et qu'il faut respecter la dignité humaine, que ça veut dire des choses, et on pense qu'on fait bien notre travail. Mais, enfin, vous savez comme moi que dans la vie courante, on a vite fait de ne pas respecter les gens. Je vous donne un exemple tout bête. Mais dans le cercle familial, bah, par exemple entre conjoints, on a vite fait de se moquer un peu trop vite de l'autre. Alors parfois on se moque de l'autre, et c'est plutôt amusant. Mais parfois on se moque de l'autre parce qu'on prend les choses pour acquis un peu trop rapidement. Ou alors, ça c'est une fois, alors c'était dans un autre domaine, mais c'était dans la relation du travail. Vous savez que je fais des vidéos. Bon, et une fois, je me suis filmé sans faire attention, en train de parler à un collègue qui était en train de me filmer. Voilà. Lui tenait la caméra et moi j'étais censé intervenir et la caméra tournait et à un moment je regarde la caméra à nouveau et sans l'avoir fait exprès, la caméra avait enregistré la manière dont je parlais à mon collaborateur. Mais j'ai eu la honte de ma vie. Je me suis dit mais c'est comme ça en fait que je lui parle. Oh là 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 là. Et pourtant vous voyez, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est quelqu'un avec qui je travaille, c'est quelqu'un avec qui je passe du temps, parce que quand même, les journées, on travaille beaucoup, quoi. Mais c'est ça ce que je veux dire par le respect. Vous savez, le respect, c'est à force de familiarité, de finir par ne plus respecter l'autre, sans même s'en apercevoir. Ça procède jamais d'une grande méchanceté, c'est simplement qu'il y a eu tellement de familiarité, il y a eu tellement de travail, et on a eu tellement de... Oui, ben, on voit plus la personne en face de soi, et on parle trop vite, trop rapidement, sans filtre. C'est jamais bon de parler sans filtre. Donc... 1. Le respect. 2. Qui va avec la patience. Supporter les défauts ou les lenteurs sans exploser ou sans mépriser les autres. La patience. Alors évidemment, la patience nous prend toujours au dépourvu quand on est stressé. Pas facile, hein. Pas facile. Donc écoutez, vous ferez ce que vous pourrez, mais si jamais vous manquez de patience... Ça ne doit jamais vous dédouaner de présenter vos excuses après. Ah, la patience, c'est quand même quelque chose de très important. Ça, je pense que c'est la grande vertu des parents. Parce que moi, c'est quelque chose, quand je suis en famille, ben, vous voyez, là, je vous donne des petits trucs tout bêtes. Hein. Je vous fais pas des grandes déclarations sur ce que c'est que l'amour, etc. Mais c'est juste pour vérifier au quotidien comment ça se passe chez vous. J'ai appris ça des parents, j'ai appris ça de mes frères et sœurs. Quand je vais chez eux, il y a des enfants en bas âge. Et moi, qui suis un vieux gars... Parce que j'habite dans un couvent, bon bah c'est simple, quand je vais aller dehors, je prends mon manteau et je vais dehors. Ben quand on est en famille et qu'on va aller dehors, c'est beaucoup plus compliqué. Oh, il suffit pas de prendre son manteau, hein. Il suffit, déjà il faut battre le rappel de tout le monde, trouver les chaussures des enfants, attendre que le mari passe aux toilettes, parce que c'est toujours à ce moment-là que le mari a passé aux toilettes, etc. etc. Ça demande énormément de patience. Ça veut dire qu'on fait moins de choses. Ça veut dire qu'on n'en fait pas autant qu'on avait prévu, mais c'est ça aussi, s'aimer les uns pour les autres. Et puis après, évidemment, toujours les petites choses. Ça va pas très loin, cette homélie, mais vous sentez qu'elle est ancrée dans le concret. On met les mains dans le cambouis. Le service, être capable d'aider, sans chercher son retour, sans même demander ou sans même se faire valoir. Vous savez, hein, c'est le fameux dicton, est-ce que vous savez quand est-ce qu'un homme a fait le ménage ? Ben, vous le savez parce qu'il vous l'a dit. Ça, c'est au travail. Au travail, je me suis aperçu que j'avais tombé dans ce travers-là aussi. Alors, c'est plutôt drôle, c'est plutôt amusant. Mais souvent, les hommes ne peuvent pas s'empêcher, quand ils font le ménage, de bien faire remarquer à tout le monde qu'ils ont fait le ménage. Comme si c'était quelque chose en plus, une sorte de cadeau qu'on fait à travers le monde. Donc, rendre service, c'est rendre service avant qu'on vous le demande et sans le dire après. Ça a été ma plus grande joie, c'est quand je me suis mis à faire le ménage tout seul. J'ai l'impression de faire vraiment le vieux gars. Mais écoutez, au moins ça triche pas cette homélie. Et je m'amusais à ne pas dire quand je faisais le ménage et à voir si jamais les gens autour de moi allaient voir que les choses changeaient. La réponse est oui, les gens sentaient bien que les choses changeaient, mais ils étaient incapables de dire quoi exactement. C'était mon petit plaisir. Bon, donc rendre service. Et puis ensuite, peut-être par-dessus tout, mais c'est la bienveillance et la bonté. Souhaiter sincèrement le bien de l'autre. Ah, je le redis parce que tout est donné dans cette phrase-là. Souhaiter sincèrement le bien de l'autre. Se réjouir du bonheur de l'autre. Trouver son propre bonheur dans le bonheur de l'autre. Trouver sa propre joie dans la joie de l'autre. Et ça, vous savez, moi j'y suis pas, hein, mais c'est quand même comme ça que j'espère vieillir. Dans les vieux frères au couvent, il y a quelques frères âgés. Ils ont un visage qui est bon, qui a un petit sourire malicieux. Et à force d'avoir passé leur vie à faire le bien autour d'eux, ils sont devenus bons. Bon comme du bon pain, bon avec un petit sourire, bon avec une petite malice, bon avec la lumière qui vient de Dieu. Et c'est comme si l'auréole qu'ils allaient avoir plus tard au ciel avait déjà commencé à poser sa lumière sur leur visage. Bon, il y aurait plein d'autres choses à dire, mais on retourne aux basiques. On retourne aux classiques, on retourne aux fondamentaux. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes les disciples de Jésus, dans le respect, dans la patience, dans le service et dans la bonté. Aimez-vous les uns les autres. Et c'est la fin de cette chronique spirituelle. C'était le frère Paul Adrien. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. À la semaine prochaine.
Retrouvez le frère Paul Adrien sur YouTube, Instagram, Facebook, Twitch et Discord.